Qu'est-ce que le bonheur ? Vaste sujet. On raconte qu'il y avait une fois un Anglais, un Français et un Russe qui parlaient du bonheur. C'était avant la chute du mur de Berlin. Et il y avait l'Anglais qui répondait « Le bonheur, c'est de rentrer chez soi fatigué après une dure journée au travail et de retrouver des pantoufles qui vous attendent bien au chaud devant le feu dans la cheminée. » C'est vrai que ça, l'image est sympathique. Puis il y avait un Français, bien sûr, qui disait « Ah, vous les Anglais, vous n'êtes vraiment pas romantiques. Le bonheur, c'est de dîner avec une jolie femme dans un bon restaurant. » Et puis il y a le Russe qui les dit « Ah, vous avez tous les deux, vous avez complètement tort. Le vrai bonheur, c'est d'être réveillé au milieu de la nuit par la police secrète qui frappe violemment à votre porte en annonçant « Ivanovitch, nous vous arrêtons au nom de la loi. » Et vous pouvez leur dire « Désolé, Ivan Ivanovitch, c'est la porte à côté. » Plus sérieusement, on a proposé le contraste suivant. Le succès, c'est obtenir ce que l'on veut. Le bonheur, c'est vouloir ce que l'on obtient. Cette idée de contentement. Quelle est votre définition du bonheur ? Peut-être qu'en cette veille de Noël, ça va être un iPhone 7C ou je sais pas quoi. Ou aller voir le nouveau Star Wars. Ou avoir une visite chez le docteur qui vous dit « Non, en fait, il n'y a rien de grave. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez physiquement, il n'y a pas de problème. » On a souvent dit, et on le dit, que le but de la vie du chrétien, ce n'est pas le bonheur, c'est la sainteté. La sainteté dans le sens où on est vraiment mis à part pour Dieu, pour le servir. On a une vie qui est différente de celle des gens qui nous entourent pour la plupart. Et c'est vrai qu'on peut vous dire cessez de chercher le bonheur et consacrez-vous à la sainteté, soyez différents. Mais nous savons que le Seigneur est bon, il nous connaît, c'est lui qui nous a fait. Et il veut aussi nous bénir, il veut nous donner des recettes, entre guillemets, pour le bonheur, pour la joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Il nous promet une vie abondante ici-bas. Ce n'est pas seulement dans un futur lointain ou plus ou moins lointain, lorsqu'on sera parti de cette terre, qu'on aura une vie abondante. Il veut que nous la connaissions dès maintenant. Et on va voir aujourd'hui, dans notre passage de 1 Pierre, qu'il veut nous révéler, il veut nous donner certaines clés pour le bonheur. Je vous invite à vous tourner donc dans ce passage. 1 Pierre, à partir du verset 8, on étudie cette lettre de l'apôtre Pierre depuis quelques semaines, avec certaines interruptions. Mais on a bien rappelé qu'en fait cette lettre, elle était destinée à des personnes qui vivaient en Asie mineure, ce qu'on appellerait aujourd'hui la région de la Turquie et les alentours. Et ces personnes étaient en proie à une persécution qui arrivait, qui avait commencé à Rome en l'an 64 avec l'empereur Néron contre les chrétiens. Et l'apôtre Pierre veut rappeler à ces chrétiens qui sont en proie ou qui sont sous la menace d'une persécution de plus en plus forte quelque chose qui vont les encourager. On peut penser que c'est quelque chose de lointain, que c'est quelque chose du passé qui ne concerne pas vraiment. Et en fait, la persécution, elle est pas loin de nous. Si aujourd'hui vous affirmez les vérités de la Bible, vous êtes sous le coup de certaines lois, même en France. Récemment, je crois que c'est la politicienne chrétienne Christine Boutin qui, pour avoir rappelé que la Bible dénonçait l'homosexualité comme une abomination, a été condamnée à, je crois que ça a été descendu, mais à payer 3 000 € d'amende, parce que 5 000 € d'amende, parce que c'est un scandale de dire ce que la Bible dit. L'avocat de la défense a essayé de dire que si vous faites ça, vous allez devoir rappeler toutes les millions de Bibles qui sont en circulation en France. Mais c'est vrai que sous la pression d'un monde qui rejette Dieu, nous sommes en proie à une persécution. Donc ce qui est dit là, c'est important de l'intégrer. Il y a une association qui s'appelle Portes Ouvertes, qui a été créée par le frère André, qui a mené des Bibles à l'époque de l'URSS en Russie, justement, et qui a déjà proposé des séminaires « Comment se préparer à la persécution ?». Tonio parlait de la pastorale il y a quelques années. La pastorale a fait venir cette association qui nous a fait une présentation, une espèce d'atelier sur comment se préparer à la persécution. Reconnaître comment elle arrive, comment les signes avant-coureurs, c'est de relativiser toutes les vérités, c'est de commencer à donner des amendes à ceux qui se réclament d'une certaine foi, et on voit qu'on est en route vers ça. Mais la Bible nous encourage à partager l'Évangile tant qu'il fait jour. La nuit arrive où on ne pourra plus le faire. Et Pierre, il veut rappeler à tous ces chrétiens persécutés ou qui vont l'être, qu'ils ont un salut, une espérance vivante en Christ. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils ont la merveilleuse assurance qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il est venu en la personne de Jésus-Christ mourir pour nos péchés, et que s'il nous garde ici-bas, ce n'est pas pour que l'on soit enfermé dans nos églises et qu'on se réjouisse de ce qui nous est arrivé, mais c'est pour aller le proclamer autour de nous, pour annoncer aux autres ce salut merveilleux. Il nous dit même que vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Est-ce que vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse quand vous pensez à votre foi et au salut en Jésus-Christ ? Je me pose moi-même la question, je suis tellement habitué à ces choses qu'on devient un peu endurci et on n'est plus touché comme on devrait l'être par la beauté, par la grandeur, par la magnificence, par l'énormité du salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Et il va nous exhorter à la sainteté. Ce mot a mauvaise presse, on pense à la sainteté comme quelque chose de rébarbatif, l'absence de joie, l'absence d'amusement, c'est une caricature voulue par l'ennemi. La sainteté, c'est quelque chose de beau, de vivant, c'est vivre en harmonie avec Christ, c'est avoir les joies qu'il veut que nous ayons et elles sont nombreuses. Ce n'est pas une vie de tristesse, de reclus. Les chrétiens devraient être les gens les plus heureux du monde, les plus joyeux. Pas nécessairement avec un sourire béat sur le visage tout le temps, mais avoir cette paix profonde qui fait qu'on est ballotté par les événements, mais comme un bateau qui a une quille bien lestée, on peut être balancé à droite à gauche, mais on a toujours cet équilibre profond en nous, de cette assurance qu'il y a un Dieu qui nous aime et que tout va bien finir, tout va finir par de bonnes choses. Il nous présente Jésus comme la pierre angulaire. On a parlé de ça la semaine dernière dans le message sur Noël. Cette pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs alors que c'était la pierre essentielle. Et il nous expliquait comment ce serait stupide de se préoccuper d'un tas de choses et d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, pas seulement pour les chrétiens, pour tous les hommes, c'est Christ. L'essentiel, c'est de le connaître, de savoir qui il est, de l'aimer et de le servir. Il nous donne un conseil et un secret qui est un peu surprenant, qui est un mot, qui est le mot de soumission. On a dit que c'était un mot qui avait très mauvaise presse de nos jours, parce que lorsqu'on pensait à soumission, on pensait à tous les exemples négatifs de soumission abjecte, de dictateurs qui ont fait souffrir des peuples. Mais là, il est question d'une soumission à Dieu, qui se manifeste par une soumission aux autorités. Dieu a placé des autorités au-dessus de nous, des autorités politiques, administratives. Et il est très important pour que les choses fonctionnent et qu'il y ait le moins de friction possible, qu'il y ait cette soumission respectueuse, ça ne veut pas dire une soumission abjecte, dès qu'il y a opposition à la volonté expressément décrite dans la Bible de la volonté de Dieu, la limite de la soumission aux autorités ou à toute autre personne ou groupe de personnes, c'est s'il y a conflit avec ce que Dieu nous demande, nous sommes libres de ne pas nous soumettre. Mais on a tendance à s'enorgueillir de notre rébellion. On ne me dit pas ce que je dois faire, c'est moi qui décide. Et ça, c'est par essence quelque chose qui relève du péché. Le péché, c'est la rébellion. C'est la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin qui n'ont pas voulu se soumettre à la volonté expressément décrite de Dieu de ne pas toucher à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est la rébellion, c'est l'essence du péché. C'est penser qu'on sait mieux que Dieu ce qui va nous faire du bien, qu'on sait mieux que Dieu ce qui va nous faire plaisir, ce qui va nous apporter la satisfaction profonde. Et donc cette idée de soumission, elle est très importante parce qu'elle, s'il n'y a pas de soumission aux autorités, après il va nous parler de la soumission à nos patrons ou nos maîtres, la soumission dans le couple, s'il n'y a pas cette soumission, ça va être le ver dans le fruit. Il va y avoir, en fin de compte, une rébellion envers Dieu, envers sa parole, envers ce qu'il nous demande de faire, envers son Saint-Esprit. Et ça, c'est la recette du malheur. C'est pas la recette du bonheur, c'est la recette du malheur. Il a, de façon très, très logique, il a commencé à parler des sphères d'influence qui sont autour de nous, le gouvernement, ensuite les relations au travail, les relations dans le couple, dans la famille. Si vous avez des questions sur ces sujets, je vous invite à retrouver les enseignements qu'on a déjà donnés à ce sujet, disponibles en ligne sur le site on a, peu importe, vous tapez Calvary Chapel, Nice sur Google et vous trouverez plus de réponses que vous n'en voudrez. On est au bénéfice de Google maintenant. Quand on cherche quelque chose, on trouve. On trouve de tout. Mais on va lire ensemble. Donc, les devoirs entre époux, et là maintenant, il revient à, aux relations dans l'Église et même aux relations entre tous les hommes envers, et c'est ce qu'on va, on va lire maintenant à partir du verset 8 de 1 Pierre 3. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Vous arrêtez là. Et regardez ces versets. Il résume ses propos. Il dit, enfin, en fin de compte, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ayez tous la même pensée. Alors certains diront, mais ça c'est le propre des sectes, d'avoir tous, penser tous la même chose, ne pas exercer d'esprit critique. Non, c'est une unité d'attitude sur les choses spirituelles, la tutelle des choses spirituelles, une unité en matière de foi, un accord sur les points essentiels de la foi chrétienne. Jude parlait du dépôt de la foi qui nous avait été révélé une fois pour toutes. Nous sommes au bénéfice d'une longue tradition chrétienne, celle qui cherche sa caution dans la parole. Et depuis longtemps, la Bible n'a pas été changée, contrairement à ce que certains groupes religieux disent, que la Bible a été changée, transformée. Une bonne réponse, entre parenthèses, pour ces personnes qui disent que la Bible a été transformée, qu'on ne peut pas se fier à elle, c'est de dire, vous pensez que le Dieu Tout-Puissant qui a daigné nous parler, laisserait n'importe qui, laisserait des hommes falsifié certains passages. Vous n'avez pas une haute idée de votre Dieu si vous pensez qu'il est facile de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites, ou de ne pas lui faire dire des choses qu'il a dites. Tous la même pensée. Soyez tous homo. C'est ce que veut dire le mot grec homo phronès. Homo, sexualité, sexe, entre même genre, même pensée. Soyons des homo phronès. C'est le mot grec. Il continue, il précise sa pensée. Ayez tous les mêmes sentiments. Et là, encore une fois, il s'adresse à des gens qui vont souffrir la persécution, qui ont commencé à en faire l'expérience. Et le vrai mot, c'est le mot qui nous donne le mot sympathique. Sympathique, c'est souffrir avec. Alors aujourd'hui, le mot a pris une connotation très, très différente. On fait un petit repas sympa entre amis, ça veut dire qu'on va manger des amuse-gueules, qu'on va faire un bon petit plat, c'est agréable comme petit mot, mais originellement c'est souffrir avec, c'est pas très sympa on dirait aujourd'hui, le mot sympathique dans son sens fort qui est utilisé ici, qui est traduit par avoir les mêmes souffrances, les mêmes sentiments. Et c'est un peu ce que disait Paul dans Romains 12 lorsqu'il disait « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Souvent, il est plus facile de pleurer avec les autres sur leur malheur que de se réjouir avec les autres sur leur bonheur, sur les bonnes choses qui leur arrivent, parce que notre vieille nature a toujours cette petite pointe d'envie qui risque de gâcher un peu le plaisir qu'on aurait à se réjouir avec les autres. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un test même de votre où vous en êtes avec votre combat contre la vieille nature. Quelqu'un a réussi un examen, quelqu'un a une augmentation, vous n'en avez pas. Je pense... Je ne vais pas demander de lever la main, mais hier c'était un grand événement à la télévision. Je ne demande pas qui a regardé. Nancy me prévient quand c'est la fin pour voir les Miss France qui éclatent en sanglots. Et une chose qui est toujours difficile, c'est qu'il y a toutes celles qui n'ont pas été choisies, qui doivent venir et faire semblant d'être heureuses pour celle qui a été choisie. Oh, je suis tellement content, laisse-moi t'embrasser, si seulement tu avais pu te casser une jambe avant d'arriver ici. Si le monde prétend le faire, nous devrions pouvoir le faire sincèrement, nous réjouir de ce que quelqu'un a été retenu avant nous, de ce que quelqu'un a remporté un prix, une situation enviable. C'est une des clés du bonheur. Parce que c'est sûr qu'il y avait des gens qui vont être plus bénis que nous, momentanément ou selon les circonstances. Et si ça nous rend malade, on se promet des jours malheureux. Alors que si on est plein d'un amour sincère et d'une sympathie, on se réjouit avec eux, on va se promettre des moments de bonheur. Il nous dit d'être rempli d'amour fraternel. C'est le mot philéo, c'est le mot... L'amour fraternel, c'est ce que veut dire le nom de la grande cité américaine de Philadelphie. Encore une fois, les États-Unis ont été fortement influencés par la foi chrétienne. Il semble que ce soit de moins en moins vrai. Mais c'est cet amour fraternel qu'on a pour son frère, pour sa sœur. dans la famille, et cet amour fraternel, on est invité à le vivre dans l'Église. Quelle que soit la dénomination, ce n'est pas seulement réservé aux gens qui viennent dans notre propre assemblée, nous devons avoir de la joie à avoir d'autres chrétiens, à réaliser qu'on n'est pas en compétition. Et quand on voit les statistiques, on devrait être en France, je crois qu'il faut, si vous êtes dans un endroit donné, pris au hasard, il faudrait attendre de voir 3000 personnes avant d'espérer statistiquement de rencontrer un autre chrétien. Donc on devrait être content, même avec tel mouvement qui est un peu bizarre, ou qui est du moment qu'on se rejoint sur les essentiels de la foi. Je ne demande pas partager votre joie avec les témoins de Jéhovah, on pense qu'ils sont vraiment dans l'erreur, on les aime, Dieu les aime, mais il y a tellement de chapelles, sans parler de calvarie, de différentes dénominations, et il peut y avoir des fois des sentiments qui n'ont pas lieu d'être, en disant ils n'ont rien compris au don de l'esprit, ou ils vont trop loin dans ce domaine. Et je suis toujours encouragé lorsque je vois des personnes qui viennent nous retrouver pour des moments spéciaux à Noël ou des rassemblements. Et c'est l'un des intérêts de participer à ces manifestations qu'on organise avec la pastorale, c'est de vivre cette joie fraternelle avec des membres d'autres églises, et d'avoir vraiment de la joie à nous retrouver ensemble. Après, on peut agréer de ne pas être d'accord sur certains points de doctrine, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir cette riche communion centrée sur Jésus-Christ. Il nous dit d'être remplis de compassion. C'est en grec, plutôt en latin, la compassion, c'est le même mot que la sympathie. Mais ça, c'est des traductions de mots différents. Le mot qui est utilisé, compassion, c'est le mot qui vient des tripes. C'est trip avec un E, pas un trip, sous l'effet de LSD, mais souffrir, avoir mal au ventre pour les uns pour les autres. La compassion, c'est ce mot très fort qui est très graphique en grec, qui veut dire que quelque chose nous remue les entrailles. On pensait que c'est le mot, en fait, c'est compassion, le mot grec, c'est les entrailles, c'est-à-dire le cœur, les poumons, le foie, les intestins. Quand vous allez à la boucherie, c'est ce qu'on appelle les abats, les choses qui n'ont pas beaucoup de valeur marchande. Et à l'époque, l'influence de la culture grecque, c'était supposé être le siège des sentiments. Ce qui est intéressant, c'est qu'on, très récemment, dans les quelques années qui se sont écoulées, on a de plus en plus des raisons scientifiques de penser qu'il y a en fait un système nerveux qui est connecté à notre estomac, à notre système digestif. Ça, c'est une découverte récente. Il y a des cellules nerveuses qui sont là, on ne savait pas qu'elles étaient là, et qui font que quand on a quelque chose qui nous émeut, on a mal aux tripes. On voit une photo horrible et ça nous touche physiquement. La Bible le savait et nous parlait de ce mot, d'avoir cette compassion, de pouvoir ressentir avec les autres des émotions profondes. Et puis, nous devons être remplis d'humilité. Absence d'orgueil, d'arrogance, absence de prétention. L'humilité, j'aime bien penser qu'en fait, c'est être humble, c'est être réaliste. C'est réaliser que tout ce qu'on a qui peut être bon, ça ne vient pas de moi, c'est quelque chose qui m'a été donné par Dieu, c'est quelque chose que Dieu m'a permis de cultiver, de développer, mais ce n'est pas parce que je m'appelle Pierre que j'ai tel ou tel talent que je devrais penser que ceux qui sont différents de moi, les autres qui n'ont pas ces talents, sont moins que moi. Et c'est la réalité des choses, c'est pas une fausse humilité de dire « Oh non, bon d'accord, oui, c'est vrai, je suis assez doué dans ce domaine. » Non, c'est dire « Bon, mais exercer les dons que Dieu m'a donnés pour le bien de tous, sans en tirer un orgueil, une prétention qui n'a pas lieu d'être. » Et il nous donne ces cinq points au verset 8, et quand on y réfléchit bien, c'est exactement les personnes qui montrent ces caractéristiques, ces qualités, c'est les personnes avec lesquelles on aime être ami. Quelqu'un qui est simple, qui est en unité d'esprit avec vous, qui a la même foi chrétienne, quelqu'un qui se soucie de vous. Et ça, je vous invite vraiment à, suivant votre éducation, vous pouvez avoir tendance à ne pas écouter l'autre, ou écouter l'autre juste pour trouver une histoire encore supérieure. Si vous avez déjà connu des gens comme ça, ils vous disent qu'ils ont attrapé une grosse truite en allant à la pêche il y a un mois dans un lac de montagne, et vous cherchez l'histoire qui va être supérieure à celle-là. Ben moi, il y a Sébastien, et c'est une histoire vraie, il est allé à la pêche sur sa paddleboard, et il a attrapé 5 poissons sabres il y a 2 jours, à la tombée de la nuit. Des beaux poissons de 60 cm. Voilà, maintenant, hein, votre histoire de pêche, vous pouvez aller vous faire voir ailleurs. Vous n'avez pas fait ça sur une planche de paddleboard, comme on dit, une planche à pagaie. Et ça, c'est... On peut le faire inconsciemment. On peut le faire inconsciemment. On peut penser, continuer son discours intérieur au lieu d'être là complètement pour l'autre personne et à savoir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent. Et lorsque vous le faites, vous allez voir que vous allez avoir des amis. Si vous êtes prêt à écouter l'autre sérieusement, si vous êtes prêt à souffrir avec lui, à vous réjouir avec lui, à pleurer avec lui. Et on a dans la salle des amis qui ont vécu un deuil récemment. J'ai vécu un deuil quand j'étais jeune, à 19 ans, mon père était décédé. Et souvent les gens ne savent pas comment réagir autour d'une personne en deuil. Et je dis souvent, il n'y a pas besoin de dire de grandes choses. Il suffit d'être là, de proposer de l'aide, de proposer une oreille, d'être attentif à ce que l'autre vit. Et ça, c'est souvent le meilleur réconfort qu'on trouve. On sait qu'on est confronté à une chose terrible, mais on aime avoir des personnes qui sont présentes, qui sont là. Et donc, c'est ce que il nous donne, donc des conseils, des exhortations. C'est des devoirs entre frères, comme il est dit dans ma version. Et puis il ajoute, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. J'aime bien l'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire, c'est un grand mot pour parler des options qui s'offrent à nous. Des options statistiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une... Si on a deux pièces de monnaie, on en lance une, elle peut être pile ou face. On en lance une deuxième, ça peut être pile ou face. Après, on peut compter le nombre de chances pour qu'on ait deux fois face, deux fois pile. Ou alors des tranches, si jamais on arrive à faire ça. Mais devant les situations de mal et de bien, il y a quatre possibilités. On peut rendre le mal pour le bien. Ça, c'est sous l'influence du diable. C'est vraiment mauvais. Quelqu'un vous fait du bien et vous lui faites du mal en retour. Ou alors, on peut faire le mal pour le mal. Tu m'as fait ça, ben attends, je t'en réserve une. Ou alors le bien pour le bien. Tu m'as offert des fleurs, ben quand je viens chez toi la prochaine fois, je vais t'amener des gâteaux. Ça, c'est l'homme, de faire le mal pour le mal, le bien pour le bien. Ce qui est plus difficile, c'est de rendre le bien pour le mal. Ça, c'est seulement Dieu qui peut nous l'inspirer. Lorsqu'on vous fait du mal et que vous rendez le bien, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Dieu nous l'a montré, il est dit dans Romains 5, 8, « En ceci, Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » Dieu nous a fait du bien en sacrifiant son propre Fils. Et nous étions encore ennemis de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Peut-être qu'on s'abstient de faire du mal, mais l'insulte, ça y va la manœuvre. Et au contraire, il nous est dit de bénir. Alors c'est un mot qui est tellement utilisé à tort et à travers que bénir, ça peut perdre un peu de son sens original. Ça veut dire, originellement, dans ce cas, dire du bien de quelqu'un. Bénir quelqu'un, c'est dire du bien. C'est faire, on dit, lorsqu'on prononce un discours, à l'occasion d'un décès pour quelqu'un, une eulogie. Dire « e », c'est bien, bon, et logie, dire quelque chose de bien sur quelqu'un. Toujours intéressant de voir que dans les grandes cérémonies pour les deuils de personnes célèbres, même si la personne s'est mal conduite toute sa vie, on trouve encore des choses bien à dire, ou les personnes responsables de ces eulogies. Mais nous sommes amenés à dire du bien des autres. Et il va très loin, puisqu'il dit, c'est... Vous demandez quel est votre appel dans la vie ? Est-ce que je dois être missionnaire ? Est-ce que je dois être professeur de maths ? Mais en même temps chrétien, et suggérer à mes étudiants qu'il y a un but derrière la création du monde, que ce n'est pas purement du hasard, montrer avec les statistiques qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Non, votre appel, il est clair pour tout le monde, pour tous les chrétiens, vous êtes appelés à dire du bien des autres. Waouh ! Ça, c'est un changement de mentalité, un changement de paradigme, comme on dit aujourd'hui. Pensez à quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez dire de bien sur cette personne ? Alors, des fois, ça sera peut-être très difficile de trouver quelque chose de bien à dire si la personne est vraiment exécrable. Mais je suis sûr qu'en y réfléchissant un peu, on peut et on doit être en mesure de dire des bonnes choses sur cette personne. ne pas s'apesantir, ne pas se focaliser sur les choses qui ont été faites par cette personne qui vous ont blessé, ou... mais tous autant que nous sommes, il y a des aspects qui nous rachètent. Et ça fait du bien de dire du bien, plutôt que de critiquer. Critiquer, quand on critique quelqu'un, on se met soi-même dans du jus de vinaigre un peu. Après, on est tout desséché, on a des rides mal placées. On n'est pas drôle en groupe. Les gens nous évitent un peu. Mais d'avoir cette bonté qui se manifeste en disant du bien des autres. Et c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein d'eau. Soit il est à moitié plein, soit il est à moitié vide. Mais si on voit l'aspect positif, c'est un mot que j'aime pas utiliser quand on commente la Bible, mais des fois c'est une façon de faire passer le message, parce que c'est un mot de la psychologie moderne, positiver, optimiser. On va être beaucoup plus en paix avec soi-même. Et puis, tôt ou tard, ça va revenir nous bénir à notre tour. Alors que si on dit du mal des autres, ils vont finir par le savoir, et ça va venir nous blesser. À leur tour, ils vont dire du mal de nous. Mais ça, voilà, si vous avez appris une chose aujourd'hui, sachez que votre appel dans la vie, c'est de dire du bien des autres. Amen. Mettez-le en pratique. Et il nous dit que nous sommes, c'est notre appel, pour hériter de la bénédiction. C'est ce que je disais, on est, si on dit du bien, Dieu va dire du bien de nous. Oh oui, Pierre, je sais, il fait plein de péchés, mais il a dit du bien d'un tel. Ça, c'est bien. L'ennemi, il est dit qu'il est l'accusateur des frères dans l'Apocalypse, le diable. Il est toujours en train de dire du mal de nous, en train de nous calomnier. C'est pour ça qu'il est, on le verra un peu plus loin, qu'il est tellement important d'avoir une bonne conscience, de façon à ce que ces accusations injustes, ces fausses accusations n'aient pas de prise sur nous, principalement sur nous. Peu importe les autres, mais si on sait qu'on est droit devant le Seigneur, lorsque l'ennemi vient nous accuser directement, on peut dire non, après tout, je suis en juste relation avec Dieu. On est accepté par Dieu. Dieu, il est prêt à dire de nous qu'on est aussi juste que son Fils. Si nous venons à Dieu par Christ, en recevant Christ comme notre Sauveur, Dieu ne nous voit plus avec tous nos péchés, il nous voit comme n'ayant jamais péché, aussi pur et aussi saint que son propre Fils. Il y a deux versets, je voudrais que vous les notiez, parce que c'est important de les avoir en tête. Et vous allez avoir le plus grand mal à vous en souvenir. Parce que l'ennemi, votre accusateur, ne veut pas que vous le sachiez. Vous savez que quelque part dans la Bible, il dit que Dieu jette nos péchés dans le fond de la mer. Pas étonnant que les mers soient polluées. Et puis il y a un autre verset quelque part qui parle de qui met nos péchés à l'est et que c'est aussi éloigné que si on était à l'ouest, je ne sais plus trop. Notez ces références bibliques. Sachez les retrouver lorsque vous êtes accusé par l'ennemi. Il y a Michée 7, 19. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, 19. Et l'histoire de l'Orient et de l'Occident, c'est un psaume. C'est le psaume 103, 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Rappelez-vous de ces versets. Dieu vous voit, dites bien de vous, si vous êtes venu à Christ, il dit, quel péché ? 103. Et j'ai fini par noter ça dans la première page de ma Bible parce que j'avais toujours du mal à retrouver les textes. Je savais que c'était là, cette idée d'aller au fond de l'eau, mais l'histoire de l'Ouest et de l'Est, mais voilà. Michée 7, 19 et Psaume 103, 12. Il y a plein d'autres péchés à mémoriser sur le pardon de nos péchés, mais rappelez-vous de cela parce qu'ils sont très graphiques. Et lorsque vous êtes accusé, lorsque l'ennemi vous dit que tu as trop fait de péché, tu ne peux pas revenir demander à Dieu pardon. Rappelle-lui ces deux versets. Il fuira. Si vous résistez au diable, il s'enfuira. Pierre nous avait exhorté dans 1 Pierre 2, 2 de désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole non frelaté, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre appliquait ça, et il connaissait si bien les Écritures qu'en fait, il cite de mémoire un psaume, verset 10 à 12. Ce sont des versets qui viennent du psaume 34, versets 13 à 17. On a pris le temps de commenter tout ce psaume mardi matin. Je vous invite encore une fois, on va pas se réunir pendant les deux semaines qui viennent, mais dès la rentrée, peut-être ça peut être une de vos résolutions, si vous pouvez vous trouver le temps. On se rejoint le mardi matin et on lit des passages, on commente et on prie. Et je vous invite à lire ce psaume 34. Il parle de « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux ». C'est important de méditer. C'est-à-dire méditer, ça veut dire bien réfléchir. Qu'est-ce qui nous est dit ici ? Si quelqu'un veut aimer la vie. L'amour de quelqu'un, l'amour de la vie, c'est une décision de notre volonté. Nous, on pense que si on a une vie exécrable, on ne peut pas l'aimer. Et puis il y en a d'autres qui ont plein de cheveux, qui sont beaux, qui sont jeunes. Bien sûr, eux, ceux-là, ils aiment la vie. C'est facile pour eux d'aimer la vie. Non, aimer, c'est un verbe d'action, c'est une volonté. Si quelqu'un veut, vous pouvez le faire. Et là, il faut aimer. Et le verbe aimer, c'est pas quelque chose qui est passif, c'est un verbe d'action. Vous pensez peut-être à quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas facile à aimer, avec lequel vous n'avez pas d'atome crochu, comme on dit. Eh bien, vous pouvez la bénir, trouver des choses sincères à dire de bien sur elle. Un peu comme sur les commentaires des professeurs avec les élèves qui ne sont pas très brillants académiquement et gentils avec ses camarades. 0 sur 20 en maths, mais toujours un mot aimable. On peut dire quelque chose de bien. Et vous pouvez être actif avec cette personne, vous pouvez trouver un petit cadeau qui lui ferait plaisir. Vous savez que cette personne aime la pêche sur des planches de surf. Vous trouvez vous allez à la FNAC, vous regardez en ligne, vous allez trouver un livre. Et je vous mets au défi cette semaine de Noël de faire cela pratiquement. Pensez à la personne avec laquelle vous avez le plus de mal à être en bonne relation. Peut-être que vous n'y arrivez pas, tant mieux. Mais prenez une de celles dont vous êtes le moins proche possible. Et puis surprenez cette personne en lui offrant quelque chose sincèrement pour lui faire plaisir. Et si vous le voulez, dimanche prochain, je vous donnerai la parole pour dire ce qui s'est passé. Je peux vous garantir que si vous faites ça, il va se passer des choses. Et vous n'êtes pas victime des circonstances, vous avez un rôle actif à jouer dans votre vie, en relation avec les autres. Si vous voulez aimer la vie et voir des jours heureux, quelle belle expression! Oh, c'est mettre au boulot dodo. Ras-le-bol. Terrorisme. Chômage. Mauvais temps. Crise économique. Maladie. Juste avant Noël, on nous dit que tous les poulets sont malades dans le sud-ouest. Qu'est-ce qu'on va manger? On va être obligé de manger du foie gras. Vous pouvez aimer la vie et voir des jours heureux. Il rappelle, ne dites pas de mal, ne mentez pas, qu'il préserve sa langue du mal. Notre langue, elle a le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Trempons notre langue dans l'encre de la parole, dans la vérité, dans les bonnes choses à dire. Dire du bien, pas dire de mal. Ça, c'est aller plus loin que l'absence de bénédiction, de dire du bien, c'est d'utiliser... C'est déjà pas bien de pas dire du bien, mais dire du mal, c'est encore pire. Ne mentez pas. Préserver sa parole, ses lèvres des paroles trompeuses. C'est tellement facile de déformer la vérité. Généralement, c'est pour nous mettre en valeur, pour abaisser les autres, par comparaison, par réflexe de vaste communicant, nous élever. Éviter le mal, s'éloigner du mal. Paul dans 2 Timothée 2:22 nous dit de fuir les passions et au contraire de rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pierre et Paul étaient sur la même longueur d'onde parce qu'ils parlaient. Il redonnait les paroles de Christ d'une façon différente. Il nous est dit d'aller faire du bien. Si vous voulez, c'est vous qui décidez, aimer la vie et voir des jours heureux. Faites ces choses. Ne dites pas de mal, ne mentez pas. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Un des versets qui me plaît le plus, parlant de Jésus-Christ, vous pouvez le noter aussi celui-là, c'est Actes 10, 38, où il est dit que Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Alors nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes des petits Christ, et nous pouvons nous aussi, là où nous allons, faire du bien. Vous allez sur Facebook, faites du bien sur Facebook. Hier, j'étais gêné parce que Facebook vous rappelle les anniversaires des gens qui se déclarent sur Facebook. Et c'était l'anniversaire, Facebook me rappelait que c'était l'anniversaire de Phil Petchonis. Le problème, c'est que Phil est décédé il y a un an et demi. Et ma première réaction, c'est de dire, oh là 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 là, Zuckerberg, que c'est un scandale que ça soit permis, qu'on ne puisse pas facilement changer les choses, etc. Et puis le Seigneur m'a dit, mais si c'est son anniversaire, sa famille doit souffrir aujourd'hui. Donc j'ai pris la peine de faire du bien en faisant un petit mot de sympathie à sa veuve qui m'a répondu aussitôt. Parce que justement, elle était dans le... Pardon de me citer en exemple dans ce cas-là, mais c'est pour dire qu'il y a... Où que vous alliez, vous pouvez faire une remarque positive. J'étais convoqué dans une affaire qui ne me concerne pas directement, mais comme témoin. Et il y avait le policier qui a pris ma déposition, qui tapait sur un clavier d'ordinateur, comme si ça avait été un vieux clavier de machine à écrire avec la... Tchou, tchou. Et j'étais là, ça a pris longtemps pour peu de choses. Et je lui ai dit, vous êtes vraiment consciencieux, je vois que vous prenez tout vraiment. Et ça, c'était presque une boutade de ma part, mais en même temps c'était sincère. Je voulais dire que ce gars-là, il prenait son temps, il faisait les choses bien de la façon, et ça lui a fait plaisir. J'aurais dit, vous ne pouvez pas aller plus vite un peu, là, j'ai pas que ça à faire. Alors, je suis loin d'être un modèle, mais c'est pour vous dire que c'est à la portée du premier imbécile venu. De dire quelque chose de bien dans un... À la caisse, les gens sont stressés, c'est les fêtes de Noël, vous dites un petit mot, j'espère que ça va se calmer un peu, ou à la banque, quand vous attendez, il y a toujours deux personnes qui ont des histoires incroyables. Ils ne sont pas de la banque, ils savent pas où est leur compte en banque. Et on dit, oh non ! Je savais, si je m'étais pas arrêté à la boulangerie, j'aurais dépassé cette personne. Et prendre son mal en patience et dire un petit mot d'encouragement à la caissière qui doit faire les choses avec ces personnes. Faites toutes ces choses... Le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Dieu est attentif à ces choses. C'est sa volonté qu'on fasse ces choses, et si on les fait, il va écouter nos prières. On avait vu que si nous disputons avec nos femmes, ça va bloquer nos prières. Mais là, si on fait du bien autour de nous, autant il va écouter ceux qui se réclament de lui, mais il va se tourner, sa face va se tourner contre ceux qui font le mal. La seule prière que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut faire, c'est « Seigneur, je t'accepte dans mon cœur ». Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas possible. Et puis il continue en disant « Si vous faites le bien avec zèle, vous n'avez rien à craindre. » Qui vous maltraitera? Et même si on vous maltraitait, l'idée de savoir que vous souffrez pour la bonne cause, ça efface la douleur de souffrir. Et là, il parle aussi d'être toujours prêt à défendre notre foi contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est intéressant, ça parle du témoignage, c'est un verset très important, c'est un de ces trois, les versets 3-16 dans la Bible, là c'est un 3-15, c'est pas loin. Si vous vous rappelez de 3-16, 1 Pierre 3-16, qui parle de témoignage auprès des autres, être toujours prêt à donner une raison à quiconque nous demande. Moi, ce qui me frappe dans ce passage, c'est pas que je vais embêter les gens avec mes traités, que je vais aller leur avec une bannière, que je vais manifester. Non, les gens vont être tellement interpellés par votre conduite, c'est eux qui vont venir vous demander, mais je vois que tu es opéré, là tu souffres, et pourtant tu prends la peine de prier pour un tel, ou tu prends la peine de demander des nouvelles de telle ou telle personne, et les gens vont, quel est ton secret, ou qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis du bien de ce type alors que c'est vraiment la pire des imbéciles. Et là vous êtes prêts à leur parler de votre foi. Et là, il parle au verset 16 de cette bonne conscience qui est essentielle. Parce que si on a la bonne conscience, on peut dire du mal de nous, on s'en moque, on sait que c'est un mensonge. Puis il termine ce petit passage 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, car c'est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » On peut faire les imbéciles, on peut faire des péchés, et on est pris, on souffre, on est puni. Le péché complique les choses de façon terrible. On s'englue dans les mensonges, on s'englue dans des conséquences, et on souffre. Et ici-bas, tout le monde va souffrir. Si vous n'avez pas encore souffert, j'ai une surprise pour vous. Désolé de vous l'annoncer à la semaine de Noël. Un jour ou l'autre, vous allez souffrir. On finit tous par souffrir. Si on souffre parce qu'on a fait le bien, qu'on a été injustement puni, injustement accusé, injustement entraîné dans des circonstances difficiles, on a au moins la paix dans nos cœurs de dire « Je suis au fond de moi, j'ai cette paix. » Et je reviens sur un verset qu'on n'a pas commenté. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ayez en vous cette communion intime. » Et je cherchais une image, et je crois que on vit en Provence, on est au bénéfice de toutes ces crèches de Noël. Dont certaines sont très belles. Il y a des petites crèches avec des animaux, des personnages, le Marie, Joseph, Jésus. C'est très beau, ça éclairé dans la nuit avec une lumière, c'est beau. Ayez une crèche dans votre cœur. Ayez un endroit, un sanctuaire dans lequel vous pouvez vous retrouver avec le Seigneur. Un endroit de paix, d'amour, de tranquillité, d'assurance qu'il y a un Dieu qui vous aime et qui est là pour vous. Et toutes les persécutions, toutes les souffrances prendront leur juste place. Ce qui compte, c'est cette relation avec Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité encore une fois, et sur elle, nous pouvons fonder nos vies. Seigneur, nous voulons tous trouver le bonheur quelque part. Tu as mis ce désir dans nos cœurs. Nous l'avons même reconnu dans nos constitutions, la poursuite du bonheur, Seigneur, mais si on le cherche au mauvais endroit, on ne le trouve pas. Ce n'est pas dans les choses matérielles, comme on va le vérifier encore à Noël avec les cadeaux, Seigneur. Ce qui compte, c'est notre relation avec toi et avec les autres. Et Seigneur, si nous pouvons avoir cette crèche dans nos cœurs, Seigneur, nous pouvons suivre les conseils qui nous garantissent le bonheur ici-bas, le fait de savoir que nous sommes en harmonie avec les autres, Seigneur, que nous les aimons, que nous disons du bien d'eux, que nous ne leur faisons pas de mal, que si nous font du mal, Seigneur, nous répondons par des bonnes choses qui vont les interpeller, et au point où ils vont nous demander les raisons de notre foi. Et Seigneur, cette raison, c'est toi que nous célébrons en cette période de Noël. Sois béni, sois glorifié, sois sanctifié dans nos cœurs. par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.